Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous, nous avons de la connaissance. La connaissance gonfle d'orgueil, mais l'amour construit. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc, pour ce qui concerne la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a de Dieu qu'un seul. Car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes en un et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns, encore tenus par l'habitude des idoles, mangent de ces viandes en les considérant comme sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Prenez garde cependant que votre droit ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, à table dans un temple d'idole, la construction de sa conscience ne va-t-elle pas l'amener, lui qui est faible, à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Ainsi le faible se perd à cause de ta connaissance. Lui, ce frère pour qui le Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en heurtant leur conscience, qui est faible, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande, afin de ne pas causer la chute de mon frère.
Lors du dernier championnat d'Europe de foot des nations, le thème principal des commentaires médiatiques n'était pas tellement les résultats de l'équipe de France,
pas particulièrement exceptionnel, mais plutôt le comportement de ses joueurs.
C'est ça qui retenait vraiment l'attention. On a reproché notamment à Samir Nasri, à Jérémy Ménez et à Hatem Ben Arfa d'avoir un comportement immature, vulgaire, et de donner un mauvais exemple, notamment aux enfants qui regardent le foot. On peut s'interroger sur cet emballement médiatique un peu exagéré qui a eu lieu à ce moment-là. Plus encore, je pense qu'on peut s'interroger sur l'hypocrisie d'une société qui détruit allègrement les repères les plus fondamentaux, mais qui est choquée par le comportement de quelques footballeurs. Cela dit, cet exemple nous rappelle que nous ne vivons pas nos vies loin des regards des autres. Alors bien sûr, c'est particulièrement vrai pour des célébrités. Mais à plus petite échelle, c'est vrai aussi pour nous. Alors ce soir, nous poursuivons notre série sur la première lettre aux Corinthiens et nous arrivons au chapitre 8. Et ce texte est particulièrement important parce qu'il nous parle à la fois de la liberté du chrétien, Joe en a déjà parlé, et de la responsabilité du chrétien. Et nous allons nous poser notamment la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important ? Avoir raison ou aimer mes frères et sœurs ? Et je voudrais vous proposer une réflexion en trois étapes. D'abord, une mise au point, ensuite une conviction et enfin une responsabilité. D'abord donc une mise au point. Et en particulier, ce sont les versets 1 à 3 qui vont attirer notre attention. Alors d'abord, bien sûr, il faut savoir de quoi nous parlons. Peut-être qu'en entendant ce texte, vous avez dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'apôtre Paul nous parle des viandes sacrifiées aux idoles. De quoi s'agissait-il exactement ? En quelques mots, je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus, mais dans la culture païenne, polythéiste, où on adorait toute une quantité de dieux de la ville de Corinthe, destinataire de cette lettre, comme d'ailleurs dans l'ensemble de l'Empire romain, il y avait des repas sacrés dans lesquels un sacrifice était accompli au nom d'une certaine divinité. Et ensuite, on mangeait, dans le cadre d'un banquet cérémonial, la viande qui restait. Et ces repas se déroulaient notamment dans des temples. Alors ensuite, souvent, des restes de ces repas étaient vendus au marché. Et Paul va aborder ce point-là plus loin dans sa lettre, à mon sens. Et il va d'ailleurs apporter une réponse quelque peu différente à la question posée par les restes qui sont vendus au marché. Mais dans le texte de ce soir, ça semble être plutôt la question des repas qui étaient pris au temple qui est au centre de la réflexion de l'apôtre Paul. Mais une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens n'allaient pas seulement au temple païen pour vivre l'aspect religieux, l'aspect cultuel de ces sacrifices aux idoles, mais aussi parce que c'était un lieu de vie culturelle. C'était un lieu de réseau, c'était un lieu de commerce. En fait, manger ces repas, d'après certains, c'était presque comme aujourd'hui aller au restaurant. C'était très courant. Et il y avait à la fois une dimension quelque peu spirituelle, mais également sociale. Un peu comme aller au resto, au cinéma, au théâtre. Et la question qui se pose aux chrétiens de la ville de Corinthe, c'est de savoir s'ils ont le droit de participer à ces repas. Alors cette question précise, on y reviendra dans le troisième point. Mais d'abord, je voudrais revenir au verset 1 à 3. Parce qu'avant d'aborder la question pratique des viandes sacrifiées aux idoles et du comportement des chrétiens à cet égard, l'apôtre Paul pose un principe. Alors il faut rappeler ici qu'il répond en fait à une lettre que les Corinthiens lui ont écrite. Il y a plusieurs références à cela dans cette lettre de Paul. Dans la lettre initiale des Corinthiens, ils ont vraisemblablement défendu leur liberté de se rendre à ces repas au nom de leur connaissance en ce qui concerne la vérité de l'Évangile. Mais l'apôtre Paul les reprend d'emblée sur le principe même de leur raisonnement. Il leur dit que ce n'est pas la connaissance qui doit être le fondement du comportement chrétien. C'est pas le fait de savoir quelque chose que d'autres ne savent pas qui doit fondamentalement orienter le comportement. Je vais préciser ce que je veux dire par là. Mais l'apôtre Paul ne dit pas, et il faut être clair là-dessus, que la connaissance est quelque chose de mauvais. Il ne faut surtout pas penser cela. Il y a beaucoup de textes bibliques où il dit d'ailleurs précisément que la connaissance est très important, qu'il faut bien connaître, bien comprendre ce qu'on croit. Mais ici, il s'adresse à des gens qui invoquent cet argument de ce qu'ils savent, ce dont ils sont convaincus, pour agir sans tenir compte des besoins des autres. Et l'apôtre Paul leur répond avec d'ailleurs un peu d'ironie, je pense. D'abord, il les ramène un peu à leur place. Verset 1, nous savons que tous nous avons de la connaissance. Les Corinthiens ont, je pense, une opinion un peu trop haute d'eux-mêmes. Ils se prennent pour des savants. Ils ont dit à Paul, oui, nous, ça va, on connaît, il n'y a pas de problème. Et ils commencent par leur rappeler que ce n'est quand même pas les seuls qui ont compris des choses sur la foi en Jésus. C'est en tout cas comme ça que je comprends cette première phrase. Mais surtout, ils n'ont pas tout compris. Verset 2, si quelqu'un pense connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Encore une fois, il les ramène à leur place. Paul veut que les Corinthiens descendent un peu de leur piédestal et qu'ils aient l'humilité de reconnaître qu'ils sont loin de tout comprendre. Enfin, il leur rappelle que ce qui est le plus essentiel pour bâtir sa vie chrétienne, c'est l'amour. L'amour, pas n'importe quel amour, bien sûr, c'est un mot qu'on utilise facilement. L'amour que Dieu, dans un premier temps, a manifesté, verset 3, un amour qui précède notre amour. Et comme la suite du texte le montrera, l'amour pour nos frères et sœurs, l'amour que nous mettons en œuvre et qui reflète cet amour dont nous savons que Dieu nous a aimés. Et en affirmant cela, l'apôtre Paul indique quelque chose de fondamental. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose que c'est forcément une bonne chose à faire. Et ce n'est pas non plus parce qu'on sait quelque chose qu'on n'a plus besoin d'exercer la moindre précaution à ce sujet. Il y a un autre critère qui est plus important que celui d'avoir raison, c'est l'effet de mon comportement sur les autres. S'il ne peut pas faire tomber la télécommande. Voilà donc l'essentiel de la mise au point faite par l'apôtre Paul. En tant que chrétien, établi dans une communauté de frères et sœurs, nous sommes appelés non plus à raisonner uniquement en termes de nos droits ou de ce qu'on sait, mais aussi de l'effet de nos paroles ou de nos actes sur ceux qui nous entourent. Je reviendrai un peu sur ce point. Mais après avoir fait cette mise au point de principe, à partir du verset 4, l'apôtre en arrive à la question concrète que se posent les Corinthiens. la question de la viande sacrifiée aux idoles. Et dans un premier temps, il montre qu'il est d'accord avec les Corinthiens sur un point essentiel. Et c'est le deuxième point que nous allons aborder, une conviction. Alors que disaient les Corinthiens? Qu'est-ce qu'ils ont dû écrire dans leurs lettres? Sans doute quelque chose comme ceci. Cher apôtre Paul, tu nous as dit, peut-être quand il est passé les voir ou peut-être dans une première lettre, tu nous as dit d'éviter les repas sacrés au temple parce qu'ils sont idolâtres. Mais nous, on a bien réfléchi, cher Paul. On est parfaitement au clair théologiquement. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les idoles des temples, c'est des pures fictions. Donc si on va au temple, nous, les chrétiens, ce n'est pas pour adorer des idoles, mais simplement pour participer à la vie sociale. Tu sais bien, apôtre Paul, que c'est là-bas que tout se passe, socialement, professionnellement, culturellement. Et donc on s'est dit qu'on pouvait aller au temple, participer à ces repas, parce qu'on est bien au clair, on a la connaissance qu'il faut sur le fait que ces soi-disant idoles n'ont aucune réalité. Avec beaucoup de pédagogie, Paul commence par leur dire qu'il est d'accord avec eux sur le fond. Versets 4 à 6. Nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a de Dieu qu'un seul. Car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, toute une quantité de dieux, et de fait il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs dans la tête des gens, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui tout vient et par qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Au passage, une belle affirmation trinitaire, mais ce serait un sujet pour une autre fois. Pour l'apôtre Paul, donc, les Corinthiens ont raison. Les idoles ne sont que des fictions. Et il est d'autant plus absurde d'adorer des idoles que c'est un renversement total de la logique de notre création à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire, pour l'expliquer en très résumé, qu'il a créé l'homme pour être en quelque sorte une représentation de lui, un reflet de lui dans la création. Un peu comme si Dieu avait laissé sa signature personnelle dans la création. Il a créé une créature, l'être humain, qui serait appelé à le refléter, mais aussi à être en relation, en vis-à-vis avec lui. Or, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie ? L'idolâtrie, c'est l'homme qui se crée des dieux à son image. Donc c'est l'homme qui fait tout le contraire de sa vocation, qui crée un reflet de lui-même et qui, de manière absurde, divinise ce que lui-même, la créature, a créé. Un retournement spirituel. Fondamentalement, l'idolâtrie, c'est ça. Aujourd'hui, sans se construire des idoles en bois ou en pierre, il y a une quantité d'idoles autour de nous. On peut estimer, par exemple, que le succès professionnel à Paris, c'est une des idoles principales. Pour beaucoup de gens, c'est vraiment ça qui donne un sens à leur vie. Pour d'autres, ça peut être l'argent. Pour d'autres, ça peut être les loisirs, les conquêtes amoureuses, la vie familiale, que sais-je. Alors, certaines de ces choses que j'ai citées sont de bonnes choses, notamment le travail, la vie familiale, les loisirs. Ça fait aussi partie de la création de Dieu. Mais c'est faire une erreur terrible que de chercher le sens de notre vie et notre identité même dans ces choses. Mais revenons à nos Corinthiens. Ils ont compris, en tout cas ils l'ont compris en théorie, que seul Dieu mérite que nos vies lui soient consacrées. Pour eux, une idole, c'est un faux Dieu. Il n'y a aucun intérêt. Et sur ce point, ils ont raison. Leur conviction est juste. L'apôtre Paul va confirmer également que les viandes sacrifiées aux idoles, elles n'ont rien d'intrinsèquement mauvais. Ce n'est pas en soi le fait de manger de telle ou telle viande qui nous donne bonne ou mauvaise conscience devant Dieu. La viande n'a pas de réalité spirituelle. Verset 8, ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Mais pour autant, est-ce que les Corinthiens ont raison lorsqu'ils se rendent au temple pour participer à ces repas sacrés? Est-ce qu'il est juste pour eux de continuer de cultiver l'apparence de l'idolâtrie? L'apôtre Paul va leur affirmer que leur démarche n'est pas juste, parce qu'elle revient entre autres à oublier leur responsabilité, en particulier envers d'autres frères et sœurs dans la foi. Et ça, c'est le troisième et dernier point, une responsabilité. Dès le verset 5, Paul commence à suggérer que cette conviction, le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que les idoles n'ont aucune valeur intrinsèque, eh bien, elle n'est pas si claire pour tout le monde. Oui, c'est vrai, objectivement, les idoles n'existent pas. Et l'apôtre Paul est le premier à le dire et à le proclamer. Mais subjectivement, les idoles existent, entre guillemets, dans la conscience de certains. D'abord, celle des païens, qui croient d'une façon ou d'une autre à ces idoles. Et puis, pour certains chrétiens moins affermis dans la foi, il y a peut-être encore l'idée qu'il se passe quelque chose de mystique dans ces temples. Il y avait des chrétiens notamment qui avaient eu un passé dans ces pratiques païennes, pour qui ces repas sacrés avaient d'une façon ou d'une autre un sens mystique, et qui par conséquent avaient du mal à vivre ces événements, le fait de prendre un repas entre guillemets sacré, ils avaient du mal à le faire sans que leur conscience soit troublée. Maintenant qu'ils avaient donné leur vie à Jésus, ils n'imaginaient pas retourner dans un lieu qui pour eux représentait tout leur passé et représentait l'idolâtrie. Ça veut dire que pour eux, s'asseoir à table dans un temple d'idoles, ça revenait à agir contre leur conscience, ça revenait à faire quelque chose qu'ils considéraient comme un péché contre Dieu. Et pour le coup, quelle que soit la question de fond, faire délibérément quelque chose qu'on estime contradictoire avec sa foi en Christ, ça revient à pécher contre lui. Parce que c'est dire, ben finalement, même si ça déplaît à Dieu, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Quelle que soit la question de fond. L'apôtre Paul nous rappelle que simplement parce que nous estimons pouvoir faire quelque chose en bonne conscience, peut-être même à juste titre, dans le fond, eh bien, il peut y avoir des hommes et des femmes dans la communauté chrétienne qui estiment que cette action, elle consiste à désobéir à Dieu. Et toute la question va être alors de savoir si on va se cramponner à ce qu'on estime être notre droit ou si on va accorder la priorité au bien-être spirituel de notre frère ou de notre sœur. On a peut-être du mal à se représenter la chose parce que c'est bien éloigné de notre contexte. Les viandes sacrifiées aux idoles, alors il y a peut-être la question de la viande halal qui parfois peut ressembler un peu. Mais voilà, c'est un exemple qui est quand même assez loin de notre contexte. Alors je vais prendre un exemple qui est plus proche de notre contexte, même s'il ne sera pas forcément parlant pour tout le monde. Il faut bien choisir un exemple. Je vais prendre l'exemple d'aller en boîte de nuit. Alors d'abord, soyons clairs. D'une part, cet exemple n'est pas strictement analogue à celui de notre texte, c'est clair, hein, il n'est pas strictement équivalent. D'autre part, je l'ai dit, il ne sera pas forcément parlant pour tout le monde. Moi-même, je n'ai jamais été un grand adepte des boîtes de nuit. Je pense que ça vous surprend beaucoup, mais c'est le cas, désolé. Mais posons-nous cette question. Pourquoi est-ce que la plupart des gens vont en boîte de nuit? La plupart des gens. Pour s'amuser, certes, mais aussi pour séduire, pour plaire à quelqu'un, pour faire une conquête, le tout bien baigné dans l'alcool, au moins. Et souvent, le but recherché, c'est que la soirée se poursuive par une aventure d'une nuit, et plus si affinité. Pour dire les choses crûment, la plupart des gens vont en boîte, en tout cas beaucoup de gens vont en boîte, pour cultiver des relations superficielles et pour s'adonner à l'immoralité sexuelle. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut aller en boîte et ne pas rechercher ces choses? Oui, sans doute. On peut aller en boîte uniquement pour danser, pour passer du temps avec ses amis. Est-ce que pour autant c'est une bonne idée? C'est là que le discernement doit intervenir. Et Paul, l'apôtre Paul nous appelle à faire preuve d'intelligence dans des situations comme celle-là. Est-ce qu'on peut participer en bonne conscience à ce qui est, pour 90% des gens autour de soi, une incitation à l'immoralité? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est tellement important pour nous? Est-ce que nous avons aussi, peut-être s'interroger, une telle maîtrise de soi que nous resterons de marbre face aux tentations? Et quel message est-ce que nous envoyons? Alors d'une part, à nos amis non-croyants, est-ce qu'ils auront le sentiment qu'on vit autrement, comme on l'affirme, comme on l'a chanté tout à l'heure, ou bien que finalement on vit à peu près comme eux, à quelques petites exceptions près? Mais le souci premier de Paul dans notre texte, c'est celui d'un frère ou d'une sœur dans la foi qui est plus vulnérable face aux tentations, ou qui est plus vulnérable dans ses convictions. Alors, je vais rester encore un peu, pas très longtemps, je vous rassure, dans l'exemple de la sortie en boîte. Admettons que nous connaissons un chrétien converti de fraîche date, depuis pas longtemps, qui a vécu pendant des années les nuits parisiennes où l'alcool coulait à flot, les conquêtes sexuelles d'un soir, etc. Ce jeune homme ou cette jeune femme a désormais le profond désir de vivre dans l'obéissance à Dieu, de tourner la page de cette vie passée. Est-ce que ça sera faire preuve d'amour, d'emmener cette personne en boîte en lui disant « Mais non, pas de souci, maintenant t'es au clair. Tu sais bien maintenant qu'on ne vit pas comme ça. Rien ne t'oblige d'ailleurs à t'enivrer. Rien ne t'oblige à séduire. Tu peux juste danser et t'amuser. » Est-ce que c'est faire preuve de sagesse? Est-ce que c'est une attitude juste en tant que chrétien de dire « Je suis au clair sur mes convictions, donc je sais que j'ai le droit de faire ceci, donc je le fais, et peu importe l'effet que ça aura sur les autres. » Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a jamais de circonstances où une sortie en boîte peut se justifier. Je ne suis pas en train de me prononcer de façon irrévocable et définitive sur ce sujet. Et surtout, j'ai utilisé cet exemple, mais on pourrait bien sûr en utiliser bien d'autres. La gestion de l'alcool est un exemple. Le fait de regarder un film qui comporte des scènes crues, un film qui peut être bien et intéressant par ailleurs. Le fait d'écouter certaines formes de musique qui glorifient des choses qui s'opposent à Dieu. Même, je ne sais pas, de s'engager corps et âme, par exemple, pour une cause politique, idéologique, qui, quels que soient ses mérites en soi, peut nous faire perdre de vue l'essentiel. L'idée n'est vraiment pas de constituer un catalogue de ce qu'on a le droit de faire et de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et on voit que, d'ailleurs, dans ce texte, à aucun moment, Paul ne dit « Quoi qu'il arrive, n'allez jamais au temple !» Mais son souci, c'est d'inciter les Corinthiens à se poser d'abord la question de l'effet de leurs paroles et de leurs actes sur les autres, et en particulier les autres chrétiens. Si on regarde le verset 9, « Prenez garde cependant que votre droit, » vous voyez qu'il reconnaît qu'il y a un droit dans un sens, « mais votre droit ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, à table dans un temple d'idole, la construction de sa conscience ne va-t-elle pas l'amener, lui qui est faible, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi le faible se perd à cause de ta connaissance, lui ce frère pour qui le Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères, en heurtant leur conscience, lui qui est faible, c'est contre le Christ que vous péchez. » Encore une fois, la question n'est pas de dire il ne faut jamais boire, il ne faut jamais regarder tel film. Il faut faire preuve d'intelligence et de discernement. Et il faut bien mesurer l'enjeu. Ces paroles de Paul sont très fermes. C'est contre le Christ que vous péchez. L'enjeu est fondamental. Et on se rappelle peut-être des paroles de Jésus qui lui-même a dit « Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. » C'est quand même assez fort. Ces paroles ne sont pas là pour nous terrifier, mais plutôt pour nous rappeler l'importance de l'enjeu, encore une fois. Est-ce que nos paroles, nos actes sont constructeurs ou destructeur pour la relation avec Dieu de ceux qui nous entourent? Peut-être que quelque chose serait vrai dans l'absolu, mais que ce n'est pas le moment de le dire à tel frère ou telle sœur qui passe par un temps de découragement. Même si peut-être que sur le fond on a raison, ce n'est peut-être pas le moment d'en parler. Peut-être que je pourrais entreprendre telle action en bonne conscience dans d'autres circonstances, mais pas en présence de ce frère ou de cette sœur pour qui ça peut être une source de déstabilisation et de tentation. Et donc pour l'apôtre Paul, nous devons changer notre manière de penser. Nous avons tendance à nous dire en premier lieu, est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Et puis éventuellement, dans un deuxième temps, nous nous interrogeons sur la manière de faire. Mais l'apôtre Paul nous exhorte au contraire à réfléchir d'abord à ce dont mes frères et sœurs ont besoin, à ce qui sera édifiant et encourageant pour eux. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, merci pour ce texte qui nous rappelle peut-être à l'ordre. Tu nous as donné une liberté considérable en Jésus-Christ, Seigneur. Nous ne sommes plus soumis à une loi religieuse faite d'interdits et de permissions bien précises. Tu parles à notre intelligence. Tu nous demandes de considérer ce que toi tu as fait pour nous, la manière dont Jésus, ton Fils, a renoncé à ce qui était son droit, le fait de vivre dans une situation de gloire et d'honneur. Il y a renoncé pour un temps, en s'incarnant, en venant parmi nous, en acceptant de mourir sur la croix, humilié aux yeux des hommes. Et cela, il l'a fait pour nous, pour notre bien, pour que ce soit édifiant, constructif pour nous, pour que nous puissions à nouveau bâtir nos vies sur lui et en ta présence. Seigneur, si lui a fait cela, comment pourrions-nous nous prévaloir sans cesse de nos droits d'une manière qui va à l'encontre du bien de nos frères et sœurs. Aide-nous à faire preuve de la sagesse et du discernement dont nous avons besoin par rapport à certaines situations où les réponses ne sont pas toujours évidentes, où tu nous appelles précisément à faire preuve de discernement. Aide-nous dans la prière à revenir sans cesse vers toi pour nous assurer que nous marchons en bonne conscience devant toi. Au nom de Jésus.